Et donc, simplement pour vous remettre dans le contexte, alors Actes 23, maintenant Luigi va nous lire dans une autre édition, probablement que celle que vous avez en main, mais tout à l'heure, ça vous aidera à suivre. Juste pour se remettre dans le contexte, on retrouve Paul alors qu'il est en prison, on arrive vraiment à la fin du livre, et Paul a été arrêté parce qu'il s'est rendu à Jérusalem. Les Juifs qui étaient là, qui s'opposaient au christianisme, ont essayé de littéralement de l'éliminer, de le mettre à mort. Et puis, Paul s'est fait arrêter par les Romains. Il en a fait appel à César et donc il est entre les mains des Romains. Il est en prison. Et là, on entre dans toute une série de situations où il va aller plaider sa cause devant toutes sortes d'autorités et avoir l'occasion d'annoncer l'Évangile. Alors, ce matin, je vous demande d'être attentif au discours de Paul, à son plaidoyer, particulièrement ce qu'il va faire avec toute l'idée de la résurrection, parce que c'est de ça qu'on va parler ensemble ce matin. On va écouter la parole de Dieu.
70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9 heures du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lysias envoie ses salutations à son Excellence, le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient. Donc, je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou même pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font tout ce que le commandant leur a ordonné. Ils amènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée et ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul, « De quelle région es-tu? » Paul répond, « De Cilicie. » Le gouverneur lui dit, « Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. » Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. 5 jours après, le grand prêtre Ananias arrive à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils viennent porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. On fait venir Paul. Tertullus se met à l'accuser en disant à Félix, « Excellence, nous vivons vraiment dans la paix grâce à toi et au changement que tu as décidé pour notre peuple. Nous recevons ces bienfaits toujours et partout en te remerciant très sincèrement. Mais je ne veux pas te perdre trop de temps. C'est pourquoi je te demande de nous écouter avec bonté pendant quelques instants. Nous avons trouvé que cet homme est très dangereux. Il provoque du désordre chez les Juifs du monde entier et c'est le chef du groupe des Nazaréens. Il a même essayé de faire certaines choses, montrant qu'il ne respecte pas notre temple sacré, et nous l'avons arrêté. Interroge cet homme, ainsi tu pourras voir toi-même que toutes nos accusations contre lui sont vraies. Les Juifs sont d'accord avec Tertullus et ils disent, oui, c'est exact. Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Paul prend la parole. Je le sais, tu es juge de notre peuple depuis de nombreuses années. Donc, je suis plein de confiance pour me défendre devant toi. Tu peux le vérifier toi-même. Il y a tout juste 12 jours, je suis arrivé à Jérusalem pour adorer Dieu. Et nulle part, on m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou d'exciter la foule, ni dans le temple, ni dans les maisons de prière, ni dans la ville. Tout ce que ces gens disent maintenant contre moi, ils ne peuvent pas le prouver. Mais je peux affirmer ceci devant toi. Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi, je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. Il y a quelque chose que j'espère, et ceux qui m'accusent ont aussi de cet espoir, c'est que Dieu relèvera des morts, les mauvais comme les bons. C'est pourquoi j'essaie de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. Après de nombreuses années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter de l'argent à mon peuple et des offrandes à Dieu. J'étais donc dans le temple, et c'est là qu'ils m'ont trouvé. Je venais de faire la cérémonie de purification. Il n'y avait pas de foule avec moi. Il n'y avait aucun désordre. Mais quelques frères juifs de la province d'Asie étaient là. S'ils ont quelque chose contre moi, ils devraient être là devant toi pour m'accuser. Ou bien, Quand on m'a conduit devant leur tribunal, est-ce que les gens d'ici ont découvert que j'étais coupable? Dans ce cas, ils doivent le dire. Devant les membres du tribunal, j'ai crié debout, « J'ai l'espoir que Dieu relèvera les morts. Est-ce à cause de cette seule phrase qu'on me juge devant vous? » Félix est bien renseigné sur le chemin du Seigneur. Il renvoie le jugement à plus tard en disant aux Juifs, « Je jugerai votre affaire quand le commandant Lysias viendra. » Il donne cet ordre à l'officier, « Garde Paul en prison, mais sans l'attacher, n'empêche pas ses amis de lui rendre des services. » Quelques jours plus tard, Félix, avec sa femme Drusille, qui est juive également, il envoie chercher Paul et il l'écoute parler de la foi en Jésus-Christ. Paul se met à expliquer comment vivre pour plaire à Dieu, comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Alors Félix a peur et il dit à Paul, « Maintenant, assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Le gouverneur Félix espère aussi que Paul va lui donner de l'argent. C'est pourquoi il le fait venir assez souvent pour parler avec lui. Au bout de 2 ans, Félix est remplacé par Pontius Festus, mais comme il veut faire plaisir aux Juifs, il laisse Paul en prison.
Tout un passage, n'est-ce pas? Vous avez suivi, vous ne dormiez pas, là? Vous êtes mieux. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on chante des louanges, on chante ton sacrifice sur la croix, ta résurrection. On chante, Seigneur, en parlant d'éternité. On parle du Dieu d'éternité qui veut nous accueillir, Seigneur. Ma prière est toute simple ce matin. Je te prie dans ta grâce de rendre plus concret dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre expérience quotidienne, cette idée de notre résurrection à venir, de la résurrection des justes et des injustes, Seigneur. De nous aider à saisir ce matin ce que la résurrection vient changer dans notre vision de la vie, notre vision du monde, Seigneur. Et je te prie, Père, de venir le faire parce que j'en ai besoin dans mon quotidien, Seigneur. J'ai besoin d'être porté par cette vision-là. Et chacun d'entre nous, nous en avons besoin, qui que nous soyons, où que nous soyons dans notre cheminement spirituel. Je prie d'être avec moi, avec ma bouche, Seigneur, et que tout ce que je vais enseigner soit conforme à ta sainte parole. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Cette semaine, j'étais en train de me préparer pour apporter le message de la parole. J'étais en train d'étudier le passage dans Actes, tout ça. Puis comme je le mentionne, bien, c'est ça. Ce qui me frappait, c'est cette idée de la résurrection qui revient dans le discours de Paul. Et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que c'est cette semaine qu'il venait chercher notre frère, M. Lévesque. Alors, je vous fais juste entrer un petit peu dans ma tête à moi, dans ma préparation pour le message de la parole. Je suis en train d'étudier ça. C'est ça qui me frappe. Puis je dis, wow, c'est vrai, c'est un thème fort dans les Actes. Je n'ai pas adressé ça. Et littéralement, je suis dans mon bureau, en train d'étudier. Danny cogne à la porte. Il dit, Yannick, j'ai une mauvaise nouvelle avec le visage que je reconnais quelques fois sur Danny. Danny est expressif. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lévesque est parti. Honnêtement, j'ai vraiment eu un choc à ce moment-là parce que j'avais jasé avec lui dimanche dernier. Je ramasse mes affaires, je m'en vais voir Mme Lévesque, tout ça, et puis je suis avec elle, puis avec une de leurs filles parce que l'autre est en Europe à ce moment-là, pas au courant, en train de vivre ça avec la famille. Mais rapidement, Mme Lévesque me dit, à travers la peine, à travers la tristesse, tout ça, elle me dit, Yannick, en même temps, mon réconfort, c'est de savoir qu'il est auprès du Seigneur. Et on revient sur ça à plusieurs reprises, même dans les discussions avec les filles. J'étais là encore vendredi, et puis cette paix, cette assurance de savoir que M. Lévesque, dans le fond, est ressuscité auprès du Seigneur. Sa vie ne s'est pas arrêtée là, vous comprenez? Dans le fond, il est déjà auprès du Seigneur. Cette semaine, je suis en train de lire la presse vendredi matin, puis je tombe sur une chronique de Michel Ouimet. S'il y en a qui sont familiers avec cette chroniqueuse-là, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous avez déjà remarqué, c'est une dame qui n'aime vraiment pas les religions, mais pas du tout. Elle est athée, elle le dit ouvertement. Et maintenant, de son propre aveu, c'est une athée très ferme. Puis voici ce qu'elle a écrit, j'ai quand même trouvé ça intéressant, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Voici ce qu'elle écrit, « J'envie ceux qui croient. Souvent, ils n'ont pas peur de mourir, car ils ont un endroit où vivre après la mort. C'est peut-être pour ça que j'ai si peur de la mort, moi, l'athée finie, le néant m'effraie. » Voyez-vous, dans le christianisme, cette idée que nous avons une vie après la mort, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, en lisant Michel Ouimet cette semaine, puis avec tout ce qui se passait dans ma semaine, tout ça, l'idée qui revenait pour moi, c'est que c'est généralement le cas aussi. Généralement, dans la société, les gens veulent espérer, veulent croire qu'il y a une vie après la mort. On va le trouver sur les murs, sur les fils d'actualité de Facebook, de quelqu'un qui est parti, des amis vont aller poster, vont aller publier des commentaires en disant « Je sais que tu es là, je sais que tu vas veiller sur nous, je sais que tu es avec nous. » Et ce qu'on lit à travers ça, on l'entend dans des salons funéraires, ce qu'on entend, ce qu'on lit à travers ça, c'est ce besoin qu'a l'être humain d'espérer qu'il y a quelque chose après, que ça ne s'arrête pas là, que ça continue. Mais personnellement, c'est ça que je crois. Et c'est ça que Jésus-Christ enseignait, c'est que la vie continue après, il y a une résurrection qui va suivre, il y a quelque chose qui va suivre après. Alors, à la lumière du passage ce matin, ce que j'ai à cœur de parler avec vous, c'est de votre résurrection. Parce que lorsque j'étais avec Mme Lévesque, puis avec les filles cette semaine, puis lorsqu'on va faire le service funéraire cette semaine, je suis en paix avec l'avenir de M. Lévesque. Mais qu'en est-il de ta résurrection? Est-ce que c'est quelque chose qui est là dans ton quotidien, dans tes réflexions? Un jour, c'est toi qui vas devoir mettre ton visage. On a une image ici, puis un jour, c'est ta face que tu vas devoir mettre là pour dire si c'est toi qui vas ressusciter, qui va aller dans la présence du Seigneur. Alors, ce matin, on va parler ensemble de ta résurrection. Et dans le passage de ce matin, bien, je veux me concentrer sur un élément en particulier. C'est cette idée-là que revient constamment dans le discours de Paul, la notion de résurrection. Non seulement la résurrection de ceux qui croient, mais la résurrection des justes et des injustes. Et ce qu'on voit dans le passage ici, c'est que pour Paul, c'est pas juste quelque chose que t'invoques au jour de ta mort. « Ah, je suis en paix, je sais où je m'en vais de l'autre bord. » Dans sa vie à lui, cela a un impact sur son quotidien, sur sa manière de vivre à tous les jours. Ça a un impact concret sur son style de vie, le fait qu'il a les yeux à la fois sur l'éternité et sur la terre en même temps. Et c'est ce que je veux qu'on aille voir ensemble ce matin. L'espoir que tous les êtres humains vont ressusciter un jour est super motivant pour moi, pour les chrétiens, et c'est précieux pour notre vie dès maintenant, dès à présent. Alors, je commence ce matin en faisant quelque chose. On va regarder une série de versets très, très brièvement, un peu partout à travers le livre des Actes, où on voit que ça fait partie du discours chrétien. Les apôtres parlent constamment de la résurrection. Lorsqu'ils sont en train d'annoncer l'Évangile, ça faisait partie de leur vie. Très rapidement, Actes 4, versets 1 et 2, on est au début du livre des Actes, et voici, on trouve les apôtres et puis voici ce qu'on lit. « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Cela faisait partie de leur annonce de l'Évangile, d'annoncer qu'un jour les morts vont ressusciter. » Plus tard, et j'aurai d'autres exemples, d'accord, mais je vais y aller brièvement. Plus tard, on retrouve Paul. Cette fois-là, Paul est en train d'annoncer l'Évangile, de parler de Jésus, mais dans un autre contexte complètement. Il est à Athènes, il est en train d'annoncer l'Évangile dans un contexte non-juif. Pourquoi est-ce que je souligne ça? C'est parce que ses auditeurs n'ont pas de culture biblique. Ils ne connaissent pas nécessairement la Bible. Alors, parler de résurrection, est-ce que c'est encore approprié? On a vu ensemble, lorsqu'on était dans ce passage-là, que Paul a vraiment adapté son discours pour se rendre à l'Évangile. Mais il va se rendre là, il va en parler. Alors, on trouve dans Actes 17, verset 18, quelques philosophes, épicuriens, stoïciens, se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Et voyez-vous, ils font une distinction entre les deux, Jésus et la résurrection. Et donc, c'est sous-entendu, il me semble, que Paul ne parlait pas nécessairement seulement de la résurrection de Jésus, mais de la résurrection des hommes en général. Résurrection des morts qui est à venir. Toujours acte 17, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ça produisait exactement la même réaction qu'aujourd'hui, d'accord? Et enfin, dans le passage de ce matin, Paul est en train de faire sa défense et voici ce qu'il dit, acte 24, verset 15, « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes ». La résurrection était extrêmement présente dans le discours et dans la pensée des premiers chrétiens. Ça faisait partie de leur vision du monde, de leur vision de leur vie. Ça faisait partie des moments où ils parlaient de Jésus-Christ. Ils parlaient de la résurrection. C'était présent, c'était quelque chose de concret. Et dans le passage de ce matin, Paul parle de son espoir, parce qu'il dit qu'il y a une espérance dans le fait qu'un jour, tout le monde va ressusciter, les bons et les mauvais. Tout le monde va un jour ressusciter et il va y avoir un jour de jugement. Et c'est important, là, je m'en vais vers quelque chose de touché, de délicat, d'accord? Je le résumerai comme ça. L'espoir de la résurrection me donne à moi de l'espoir et de la motivation pour bien vivre à tous les jours. Regardez encore une fois Actes 24, 15. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, ils parlent de l'ensemble des Juifs, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. D'accord? C'est délicat où je m'en vais, là. Une résurrection des justes et des injustes. Paul est en train de nous dire que tout le monde va ressusciter un jour. Tout le monde, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui marchent sans Dieu, ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui. Je veux dire, si Paul a raison, cette journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure va être là aussi, athée ou non, d'accord? Si Paul a raison, c'est ce qui se passe. Et donc, Paul a cette conviction qu'un jour, tout le monde va ressusciter. Et plus loin, au verset 24, toujours dans Actes 24, lorsqu'il se retrouve à annoncer l'Évangile à Félix et Drusille, qui sont là un peu pour l'entendre, parce qu'elle était juive, puis lui, ben, il espérait pouvoir le soudoyer en disant, « Regarde, je m'intéresse à ton histoire, moyennant un peu d'argent, on peut peut-être s'arranger pour que ton procès se fasse plus vite, puis que tu gagnes ta cause rapidement. » Et donc, il a l'occasion d'annoncer Christ. C'est ça qu'il nous est dit dans le passage. Mais où est-ce que ça va le conduire? À parler de la justice et du jugement à venir. Et là, à ce moment-là, Félix a peur. Félix a peur parce qu'il n'est pas rassuré avec son éternité. Le grand néant l'effraie lui aussi. D'accord? Et donc, il n'est pas rassuré avec son éternité. Donc, c'était présent dans le discours. Mais là, ce qui est particulier, c'est que Paul nous dit que cela lui donne de l'espoir de savoir qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Et ça, c'est lourd. Il y a quelque chose de sombre dans cette idée-là. En quoi est-ce que ça donne de l'espoir à Paul de penser que c'est pas juste les justes qui vont ressusciter? En quoi ça peut lui donner de l'espoir? La conviction qu'un jour tout le monde va ressusciter, bon et mauvais, et se présenter devant Dieu donne de l'espoir pour le sort de l'humanité. J'arrive à comprendre comment est-ce que Paul pense, parce que lorsqu'on regarde le passage, Paul est en prison, il est dans une situation totalement injuste, son procès, j'espère revenir là-dessus, je suis en train de voir si je vais faire un message juste sur le procès injuste de Paul, qui est tout à fait comparable au procès injuste de Jésus, d'accord? Mais Paul est là, puis il est en train de voir tous les jeux politiques qui sont en train de se faire, où tu as le tribun qui raconte l'histoire à sa manière pour que ce soit plus beau que la réalité. Oh, « Oui, je me suis lancé pour le sauver quand j'ai vu qu'il était romain. » Non, pas en tout. Il est allé le faire battre. Puis là, il a dit qu'il était romain. C'est pas ça l'histoire. Et chacun d'entre eux vont retoucher l'histoire à leur avantage. Paul est en train de subir un procès injuste. Paul est en train de voir ses concitoyens, les gens qu'il aime, les Juifs, l'accuser à tort, faire venir des faux accusateurs, toutes sortes de choses comme ça. Donc, Paul voit le monde et il dit, mais c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais dans sa vision du monde, dans sa vision de l'histoire de l'humanité, dans ses convictions profondes, pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qu'il voit avec ses yeux, ce monde injuste qui ne va pas bien, pour lui, l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas là. Pas seulement son histoire à lui. Paul n'est pas en train de dire, ben, de toute façon, je veux dire, qui me zigouille, qui me pende, qui me tranche la tête, n'importe quoi, je m'en vais dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement sa destinée à lui qui n'importe, c'est l'histoire de l'humanité. Où s'en va cette terre-là? Et d'avoir la conviction profonde que l'histoire ne s'arrête pas là, lui donne de l'espérance même pour l'humanité. Et je vais essayer de vous l'illustrer ce matin avec quelque chose de très, très concret pour moi cette semaine. D'accord? Un soir, je rentre à la maison, les enfants m'apprennent qu'une amie de ma nièce qui habite à Rivière-du-Loup a été, et là je vais être cru ce matin, je suis désolé, si les parents vous êtes mal à l'aise, on va être comme dans la télé-réalité, c'est vrai, d'accord? Une amie de ma nièce a été battue à mort par son chum, d'accord? On a une photo d'eux. C'est dans les journaux, vous trouvez ça sur Internet. Alors, ce jeune homme-là, Jason Theriault, est accusé, c'est pas prouvé encore, est accusé d'avoir battu à mort sa copine Véronique, d'accord? Alors moi, je rentre à la maison, puis c'est la nouvelle du jour à la maison. Savais-tu ça que? Je commence à jaser, les enfants m'expliquent un peu, parce qu'ils ont lu sur Facebook les murs, tout ça. Les neveux sont en colère. Les neveux sont frustrés, puis ils écrivent des affaires où ils doutent de la justice, puis ils savent comment ça va se passer. Ça va être assez simple, cette histoire-là. Il va aller une couple d'années en dedans, on le sait déjà, après ça, il va ressortir. Puis il va peut-être en tuer un autre encore. Puis c'est ça qu'on voit sur les fils d'actualité sur Facebook. Puis je vois les commentaires de leurs amis à eux aussi. Très, très cyniques envers la justice. Alors voyez-vous, pour moi, là, ça, là, c'est très concret. C'est dans ma face cette semaine. Voici l'humanité. Voici où l'humanité s'en va, puis voici comment des jeunes qui regardent le monde perçoivent les choses actuellement. Ça, pour moi, c'était extrêmement concret cette semaine. Et si vous tenez informé un peu, si vous lisez les journaux, si vous suivez l'actualité, mais ce même cynisme-là envers... Tu sais, il y a des bonnes nouvelles aux nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Chaque fois qu'il y en a une, j'ai le goût de prendre un gros surligneur et l'entourer. Il y en a des bonnes nouvelles. Mais vous comprenez, c'est comme pas super motivant l'affaire. Parce que la bêtise humaine est toujours là en première page avec des massacres puis toutes sortes d'affaires. Puis là, cette semaine, c'était comme, OK, l'état du climat, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis tout le monde est là puis on se dit, ben peut-être qu'un jour, on va décider de faire quelque chose. T'es comme toujours confronté à cette bêtise humaine-là constamment. Et si c'est ça l'histoire, le sort de l'humanité, à un certain moment donné, tu as le goût de dire, c'est comme une grosse farce cette affaire, c'est comme une grosse joke cette histoire-là. Moi, c'est pas ça que je crois. Le sort de l'humanité, l'histoire de l'humanité, pour moi, ça s'arrête pas là, pour Jésus non plus, pour Paul non plus, ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai cette ferme conviction que le sort de l'humanité est brillant, il est beau, parce qu'un jour, Dieu va ressusciter les justes et les injustes, et il va prendre ceux qui ont placé leur foi en lui, et le sort de l'humanité est extraordinaire, il est rayonnant, il est merveilleux, il est éternel. Ça ne s'arrête pas ici avec ma mort, et l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas avec nos morts à tous, mais au contraire, ça se poursuit dans l'éternité, et le sort de l'humanité est brillant, il est merveilleux. Comprenez-vous que pour Paul, lorsqu'il est là, il est en prison, puis il vit un procès injuste, il est confronté à la bêtise humaine, puis il voit ce monde qui va tout croche. Espérer dans la résurrection des justes et des injustes lui donne de l'espoir, parce qu'il sait que l'histoire des hommes ne s'arrête pas avec ce qui se passe maintenant ici. Mais qu'un jour, Dieu va ressusciter les justes et les injustes, va passer en jugement tout le monde, va prendre ceux qui ont placé leur foi en lui, marcher avec lui, va amener les justes dans un sort éternel extraordinaire. Et donc, Paul marche à tous les jours de sa vie avec un œil sur la terre puis un œil sur l'éternité. Et ça, ça lui donne de l'espoir. Parce que ça ne s'arrête pas ici avec nos niaiseries puis nos conneries. Et si on voit sur la terre toutes sortes d'injustices, puis on a l'impression que la justice vient si rarement, si peu souvent, je sais qu'un jour, la justice véritable va venir. Et si j'ai l'impression qu'ici, sur terre, trop souvent, les pauvres, les faibles, ceux de qui on peut abuser, sont abusés, je sais qu'un jour, tout ça va s'arrêter. Parce qu'il n'y aura plus d'abus comme ça. Et l'humanité va rayonner dans la présence de Dieu. Et c'est là toute mon espérance, tout mon espoir. Alors lorsque je regarde des histoires comme celles que mes neveux sont en train de traverser cette semaine, la pensée qui vient rapidement dans mon esprit, surtout quand j'ai le nez dans un passage comme celui-là, c'est qu'un jour la justice va être faite. Un jour la justice va être faite et l'humanité va être belle, elle va être rayonnante. Et ça a un impact sur mon style de vie, sur ma manière de vivre à tous les jours. Si j'ai cette ferme conviction, si je suis convaincu dans mon cœur qu'un jour tout le monde va ressusciter, et chaque jour de ma vie, je vais le vivre avec intensité. Il y a une toune qui est vieille déjà un petit peu, c'est la toune de Corneille. Puis dedans, il dit, on vit chaque jour comme le dernier. Le fait que je garde les yeux fixés sur l'éternité en même temps que je suis en train de vivre sur cette terre ma vie fait que chaque jour pour moi peut à ce moment-là devenir le dernier. Et ça me donne de l'énergie, le désir de vivre cette journée-là à fond pour Dieu. C'est le cas pour Paul. Paul, ça changeait sa manière de vivre. Je le résume comme ça. La conviction que tout ce que je fais ici-bas, maintenant, a un impact pour mon éternité, ça me donne le goût de bien vivre, de vivre conséquemment avec ça. La semaine dernière, dans le message, j'ai insisté sur l'idée suivante, d'accord? J'ai dit, chacun d'entre nous, on est appelé à être des modèles, quel que soit notre âge. Chacun d'entre nous, on est regardé, on est observé. Tout le monde, tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu es appelé à être un modèle. Bien, dans une certaine mesure, c'est vrai aussi pour ce message-là. Toute cette idée de la résurrection des morts, puis qu'après ça, on va aller auprès de Dieu, c'est pas juste une doctrine, une idée qui est importante pour les vieux grabataires qui sont en train de ramper jusqu'à leur cercueil. Je m'excuse, les personnes âgées. Comprenez, c'est pas juste quand tu sens que ta fin approche que tu commences à penser à la résurrection. Si tu es conscient de cette réalité-là chaque jour de ta vie, ta vie, tu la vis autrement. Tu la vis à fond la caisse. Tu veux bien la vivre, ta vie, parce qu'elle a un impact sur ton éternité. Il y a une phrase que j'ai attrapée dans un film, je ne me souviens même plus c'est lequel. J'aime ça. Je trouve que ça résume bien cette philosophie-là. Il y a quelqu'un dans le film qui disait « Nous sommes tous immortels jusqu'à l'heure où Dieu vient nous chercher. » Et ça va dans les deux sens. Je ne veux pas vivre chaque jour de ma vie avec la crainte de la mort. Puis non, je veux la vivre à fond, ma vie. Je suis ici pour la vivre. Mais en même temps, je sais que le jour où Dieu décide que je m'en vais, je ne pourrai rien faire. Je veux juste aller me présenter devant lui. Que j'ai 20 ans, que j'ai 18 ans, ou que j'ai 78 ans, ou que j'ai 73 ans. Quand Dieu a décidé qu'il s'en vient me chercher, je passe de l'autre bord et je m'en vais rencontrer Dieu. Et pour cette raison-là, je veux vivre toujours avec un œil sur la terre et un œil sur l'éternité. C'est ça que Paul exprime au verset 16, dans Actes 24-16. Voici ce qu'il dit. « Parce qu'il croit dans la résurrection, parce qu'il espère la résurrection des justes et des injustes, il dit, c'est pourquoi je m'efforce toujours d'avoir la conscience nette devant Dieu et devant les hommes. » Paul espère dans la résurrection des justes et des injustes, ça a un impact sur son quotidien. Je veux avoir bonne conscience devant Dieu à chaque instant, devant les hommes à chaque instant. Je veux être prêt, moi, à aller rencontrer Dieu. Et donc, ça dynamise sa vie, voyez-vous? Ça donne un dynamisme à sa vie qui fait que chaque moment peut être le dernier. Je veux le vivre à fond et je veux le vivre sous le regard de Dieu, sous le regard des hommes devant moi. Parce qu'il a constamment conscience de cela. Et ça implique que je veux parler de la résurrection lorsque j'annonce l'Évangile aux gens. Même si, comme lorsque Paul était à Athènes, ça peut sembler étrange, je veux parler aux gens autour de moi qu'il y a quelque chose qui s'en vient après, qui n'ont pas besoin d'être tellement découragés avec le monde qui va mal. Parce qu'il y a un deuxième chapitre à l'histoire de l'humanité. Un chapitre glorieux, un chapitre merveilleux. Et donc, je veux parler constamment de la résurrection. Et c'est quelque chose qu'on oublie lorsqu'on annonce l'Évangile. La résurrection est aussi importante que la croix lorsque je suis en train d'annoncer l'Évangile. Les deux sont importants. Le mot Évangile, si vous n'êtes pas familier avec ce mot-là, avec son sens véritable, le mot Évangile nous vient tout simplement d'un mot grec, euangelion, d'accord? C'est une translittération qu'on a faite du latin au français, du grec au latin, du latin au français, euangelion, d'accord? Qui signifie « bonne nouvelle ». C'est tout ce que ça veut dire, Évangile. Donc, on ne dit pas simplement l'Évangile, on va dire l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si c'est une bonne nouvelle, c'est premièrement à cause de la croix, définitivement. C'est premièrement à cause de la mort de Christ sur la croix. À ce point-ci, si vous m'avez suivi, il devrait y avoir quelques personnes dans la salle ici qui se disent « c'est pas vraiment un bon message ton histoire ce matin parce que tu parles de la résurrection des justes et des injustes puis je suis pas sûr où est-ce que je m'en vais. » Il devrait y avoir quelque chose d'inquiétant dans ce message-là. Parce que la bonne question, c'est qui est juste? Que les justes lèvent la main. On se rend compte après, on va prendre un café. Mais si vous êtes juste, c'est à cause de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est à cause de Jésus-Christ. Voyez-vous, dans la réalité, chacun d'entre nous, il n'y a personne qui, de sa propre nature, est juste. Et lorsque Paul est en train d'annoncer la résurrection des justes et des injustes, c'est normal que Félix tremble dans ses shorts. C'est juste qu'il est lucide. Il est là pour soudoyer quelqu'un. Tu veux pas aller rencontrer Dieu quand tu viens de faire la transaction. C'est un fraudeur, c'est un voleur, c'est un homme corrompu. Et il n'y a personne qui fondamentalement, par sa nature propre, est juste. Et donc, c'est quelque chose qui devrait, à quelque part, c'est vrai, nous inquiéter. Mais voilà, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un juste. Un juste. Dans une de ses lettres, l'apôtre Jean appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ le juste. Il y a une personne qui est venue sur cette terre et qui a vécu une vie digne d'être appelée, de porter ce titre par sa vie, par son style de vie, ce titre de juste. Il y a une personne. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est la seule personne qui est digne de porter ce titre-là. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il venait pour mourir sur cette croix. Et s'il venait mourir sur cette croix, il venait pas pour mourir pour lui-même. Lorsqu'il était là sur cette croix, il n'était pas là parce qu'il avait commis des fautes. Les gens qui étaient là, qui étaient moindrement de bonne foi, étaient tous d'accord dans leur témoignage pour dire « mais il n'y a pas d'affaire là, ce gars-là. » Parce qu'il n'y a rien fait qui mérite la mort d'un criminel. Ce n'est pas un criminel. Mais Jésus-Christ était là sur cette croix-là et il venait mourir sur cette croix pour des injustes. Afin que son sacrifice puisse nous être imputé, pas amputé, mais imputé, et que nous qui sommes des injustes, nous soyons déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Je vous lis le passage dans 1 Jean 2, que je citais tout à l'heure, où on voit Jésus-Christ le juste. Voici ce que Jean dit, et en fait c'était dans notre louange ce matin. C'est vraiment une direction de l'esprit là-dedans. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une résurrection des justes et des injustes. Et il y a un juste qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous qui sommes injustes, en plaçant notre foi en lui, on puisse être justifiés, déclarés justes, même si par mérite, on ne l'est pas. Parce que sa justice nous est imputée devant Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle extraordinaire. Maintenant, ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Si la bonne nouvelle s'arrête là, ben, mon ardoise est clean devant le Seigneur, puis le Seigneur dit, c'est correct, je t'ai pardonné. Qu'est-ce qui se passe après? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une résurrection. La bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. Si Christ est venu mourir sur cette croix, c'est dans le but qu'on puisse se joindre au party après. La bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'un jour, après ma mort, je vais rentrer dans une espèce de gros party éternel. Et c'est ça l'histoire, la fin, le sort de l'humanité. C'est qu'il va y avoir une grosse fête de l'autre côté. Et ça ne s'arrête pas simplement avec des grosses larmes de crocodile qui disent « Oh Seigneur, je te remercie parce que tu m'as pardonné tous mes péchés. » Non, c'est qu'après. Après ça, lorsque je m'endors, j'entre après ça dans la présence de Dieu, puis je m'en vais dans une espèce de grosse fête de fou de l'autre bord, qui va durer pour toute l'éternité dans la présence de Dieu. Amen! C'est ça la bonne nouvelle. Alors lorsque je veux annoncer l'Évangile, je veux parler de ça. J'aimerais ça que les musiciens viennent me rejoindre à l'avant ce matin. On va chanter ensemble. Lorsque je parle aux gens de Jésus-Christ, je veux leur parler de la croix et je veux leur parler de la résurrection. Lorsque je vis ma vie à tous les jours, je veux vivre ma vie à la lumière de cette grâce que Christ m'a fait de pardonner mes péchés. Mais je veux vivre cette vie en étant conscient aussi qu'un jour je vais dans la présence de Dieu et que tout ce que je peux porter dans cette vie de difficultés, de choses lourdes, vont s'arrêter un jour. Que le sort de l'humanité, qui peut sembler tellement noir par moments, ne s'arrête pas avec notre mort. Le sort de l'humanité est rayonnant, il est merveilleux. Cette semaine, lorsque vous allez vivre votre semaine, vos journées, essayez de les vivre en gardant un œil sur la terre puis un œil sur l'éternité. Essayez de les vivre en pensant qu'aujourd'hui pourrait être le dernier puis je veux le vivre à fond. Et ce qui m'attend de l'autre bord, c'est une fête extraordinaire si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Lorsque vous parlez avec des gens autour de vous et que vous commencez à parler de votre foi, parler de l'Évangile, arrêtez-vous pas avec le péché, la mort de Christ pour nos péchés. Donnez-leur de l'espoir. Donnez-leur de l'espoir pour leur éternité. Dites-leur que ça vaut la peine de continuer à vivre dans les journées super décourageantes, puis de bien vivre sur cette terre, parce qu'un jour, il y a une fête qui nous attend de l'autre côté. Dites-leur qu'ils peuvent se joindre à ce party incroyable qui est de l'autre côté. Ils ont juste à placer leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un juste, qui est venu mourir sur la croix pour que tous les injustes de la terre, parce que nous le sommes tous, puissent un jour ressusciter et être dans le camp de ceux qui marchent avec Dieu. Et si cette semaine, tu es là, puis tu te lèves un matin, puis tu repenses à ta journée d'hier, puis tu dis, j'ai tellement pas été sacoche. Retourne à ce verset dans 1 Jean 2:1 et rappelle-toi que c'est pas sur la base de ta justice à toi que le Père t'aime et qu'il t'accueille, mais c'est sur la base de la justice de Jésus-Christ. Et il nous attend de l'autre bord. Il prépare une fête extraordinaire. On va prier ensemble. Mais Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ce passage qui me ramène à la résurrection, qui donne de l'équilibre à ma foi, Seigneur, qui me ramène à la bonne place. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce passage qui me rappelle l'importance de vivre ici-bas en ayant les yeux fixés sur l'éternité aussi, Seigneur. Seigneur, cette semaine, j'étudiais le passage et pour de vrai, mon cœur était rempli d'espoir. Parce que je vois ce monde qui, de bien des manières, va pas bien. Mais je sais que l'histoire des hommes ne s'arrête pas ici, Seigneur. Tu n'as pas abandonné les hommes. Tu n'as pas abandonné l'humanité. Tu ne nous as pas placés sur une terre extraordinaire pour se dire tout s'arrête ici. Tu en prépares une plus belle encore, Seigneur. Dans ta présence pour l'éternité. Seigneur, je veux te remercier pour cette assurance que j'ai dans mon cœur, que M. l'évêque est dans ta présence, que je vais aller le rejoindre bientôt, Seigneur, avec des milliers, des millions d'autres. Et je veux vivre aujourd'hui, Seigneur, comme si c'était le dernier. Je veux bien vivre ma vie pour toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta résurrection. Amen.